Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillé, que tout va pour le mieux de votre côté, que vous êtes en forme, que la vie est belle. D'une manière générale. Comme vous vous en doutez, on va passer ensemble une heure et demie à peu près pour parler de l'actu tech, faire le point sur les dernières actus, faire le point sur les derniers tests qu'on a pu publier sur Frandroid, parler un petit peu d'articles qui peuvent arriver potentiellement aussi à l'avenir. Et voilà. Donc on va parler de pas mal de choses. On a quoi aujourd'hui au programme? On a la Google I.O., la conférence annuelle de Google, dont on connaît enfin désormais la date. On a également du Xbox Game Pass, des nouvelles enceintes du côté de Sonos, des nouveaux Samsung, un test de smartphone Vivo, du YouTube, du vélo électrique. Donc voilà, on a pas mal de choses dont on va parler ensemble ce matin. Donc voilà, on va commencer doucement. Et on va commencer par un test de smartphone, si ça vous va, si c'est suffisant. On va commencer par un test de smartphone, c'est le test... Ah, faut que je partage l'écran, ce sera mieux. Voilà. Le test du Vivo X90 Pro, qui est un téléphone que j'ai testé pendant 3 semaines, qui est un téléphone de chez Vivo. Je vais le sortir parce que je l'ai encore avec moi. Salut l'Ordibus, je l'ai déjà avec moi et je crois que je vous l'avais déjà montré de manière un peu discrète en live. Alors sachant que ça du coup c'est le Vivo X90 Pro, et là j'ai le Vivo X80 Pro. Donc on voit comme ça aussi un petit peu la différence entre les deux. Il y a quelques semaines, je crois que c'est la semaine dernière d'ailleurs, j'ai publié le test longue durée du Vivo X80 Pro que j'utilisais depuis 6 mois. Et je vous l'avais montré d'ailleurs, le problème c'est que j'ai un pixel mort sur l'écran du smartphone. On peut le voir? Oui, on va pouvoir le voir. Là, on voit bien le pixel mort. Donc j'ai un pixel mort sur l'écran du smartphone. Et le rond, ça me trigger. Ouais. Salut l'ex-Swiss. Le rond, ça trigger. En vrai, ça va. En vrai, ça va parce que c'est ce que j'explique dans le test. C'est que l'espèce de rond là est suffisamment large pour pas que ça déséquilibre trop le smartphone en fait. Une fois qu'il est posé à plat, il vient pas complètement pencher. Enfin, il est pas bancal. Quand il est posé sur un bureau, il est posé sur un bureau et vous pouvez l'utiliser à plat sans que le téléphone il fasse comme ça quoi. Donc non, c'est un téléphone qui est correct, c'est un téléphone qui est un peu cher pour son prix, c'est une note de 8 sur 10. C'est un téléphone qui est un peu cher pour son prix et qui malheureusement ne propose pas certaines fonctions qu'on peut attendre sur des téléphones plus haut de gamme, voire il a même certaines fonctions qu'on avait sur le modèle de l'an dernier, qui était certes plus cher, mais qu'on ne retrouve pas sur celui de cette année. Et sur une table, ah ok oui, alors ça mais même pas bancal, souvent ça les rend hyper glissants. Oui mais là c'est du faux cuir, en fait on a une texture... je pense qu'on va le voir. On a une espèce de cuir vegan. On voit pas suffisamment. On voit pas hyper bien la texture. Mettre en grand, mieux. La mise au point. Voilà. On a une espèce de grain comme ça de faux cuir vegan qui fait qu'en fait il glisse pas trop. Avec une petite bande en métal au milieu. Je pense qu'on le voit mieux limite sur la photo du test. Et donc ouais, le problème c'est qu'on n'a pas de vrai téléobjectif. On n'a pas non plus de meilleure idée en effet que de mettre de la céramique à la Xiaomi, c'est une bonne texture. Ouais, tout à fait. Et le problème c'est qu'on n'a pas de téléobjectif. On a 3 appareils photo au dos, dont 2 de 50 mégapixels. Donc en fait, on a une configuration qui est assez proche de celle du Xiaomi 13 Pro, si je dis pas de bêtises, avec un capteur principal qui est identique, puisque c'est le même capteur principal type 1 pouce, donc grand capteur photo. Mais par contre, on s'arrête au zoom x2. On n'a pas un zoom x3, on n'a pas un zoom x5, x10 pour un smartphone à 1200 euros. Ce qui est un peu dommage. Oui, souvent de la peau de l'avocat ou de poisson. Je sais pas généralement ce qu'ils utilisent comme comme cuir, enfin comme comme texture pour le cuir vegan. C'est ou ça, ou alors en vrai c'est du sky. Hein. Ça peut être du plastique. Du poisson, c'est pas vegan. Enfin, ce serait pas vegan, leur début. Donc intro. L'écran est plutôt cool. Après, on a un smartphone, c'est un grand format. Donc c'est le format habituel de écran de 6,78 pouces de mémoire. Donc c'est un smartphone qui est pas évident à utiliser à une seule main. Les cuirs Tesla, c'est peau d'ananas. Oui, ça, l'ananas, je savais. Il me semble que je savais que ça pouvait être utilisé. Donc 6,78 pouces. L'écran est pas mal. Le problème, c'est que c'est pas un écran LTPO. Donc on peut pas descendre à un taux de rafraîchissement de 1 Hz ou 10 Hz comme on peut avoir sur les Samsung. Il monte jusqu'à 120 Hz, mais c'est forcément 120 ou 60. Donc ce qui est pas idéal. Qu'est-ce qu'on a donc? L'effet en faux cuir. Le lecteur d'empreinte, avec un lecteur d'empreinte classique. Qui reprend pas ce qu'on avait, ce qu'on a là, ce que vous voyez sur le Vivo X80 Pro, à savoir le gros lecteur d'empreintes digitales sur lesquels on peut choisir si on veut de mettre des icônes d'applications, etc. Et peu importe où on appuie sur dans la zone, ça va déverrouiller le téléphone. Alors là, ça marche pas parce que je me tords un peu le doigt, mais évidemment. Donc j'ai pas besoin de viser hyper précisément sur le modèle de l'an dernier, alors que là cette année sur ce modèle là, c'est un lecteur d'empreintes qui est beaucoup plus petit sur l'image. Écran de belle qualité. Interface simple et personnalisable, c'est interface de Vivo, c'est FunTouch OS, donc ça change pas trop par rapport à ce qu'on avait déjà précédemment. Bloc photo un peu trop limité, donc là c'est ce que je vous disais, on n'a pas de téléobjectif, je trouve un petit peu dommage. Même si on a un capteur principal, un appareil photo principal qui lui est de très bonne facture, on a aussi quelques défauts sur les autres, c'est-à-dire que si on regarde des photos, donc là je suis en ultra grand angle, là je suis en grand angle, donc l'appareil photo principal, et là je suis l'objectif portrait, et on voit que c'est pas du tout la même colorimétrie entre celui-là et celui-là. Là on a des teintes qui sont beaucoup plus rosées, là on a des teintes qui sont un peu plus vertes, enfin qui tirent plus vers le vert, le jaune, les couleurs un peu chaudes. Là on est plus rosé sur celui-là. C'est un peu dommage. Et surtout, le téléobjectif, il a un souci. Donc là, j'ai fait exprès de faire une photo. Enfin, il y avait limite. Le soleil était juste là, derrière la gaieté lyrique. Donc c'est une photo qui est compliquée à gérer, j'en suis conscient, pour les smartphones. Mais là, ça passe sur le capteur principal. Alors, c'est pas hyper joli. Et peut-être qu'il y a le HDR est pas hyper simple à maîtriser, mais c'est normal. C'est des conditions qui sont très difficiles pour un smartphone. Par contre, sur le téléobjectif, on voit des franges violettes. Partout autour, ce qu'on appelle des aberrations chromatiques et qu'on voit très très bien dans les branchages. Hop, si je zoome ici, voilà, là vous voyez énormément d'aberrations chromatiques partout ici. Alors, c'est encore une fois logique parce que les conditions sont pas simples, mais c'est dommage. C'est quand même dommage. Sur cette série-là, ils s'en étaient bien sortis. Là, ça allait. Là, ça allait aussi. Ouais, là, on n'a pas le souci d'aberration chromatique qu'on avait sur celui d'avant. Plus. Non, là, ça va. Donc, voilà. Et ensuite, pour le coup, quand on passe sur en mode nuit, donc photo de nuit ou en mode nuit, c'est-à-dire que là, j'ai fait en mode automatique, en mode nuit. Donc, à chaque fois, j'ai fait une série avec les deux. En mode automatique, c'est l'ultra grand angle qui va avoir beaucoup de mal. Enfin, de nuit, c'est l'ultra grand angle qui va avoir beaucoup de mal. Et là, on le voit, hein. Les branches, le manque de netteté est assez criant sur toute cette partie-là. C'est une espèce de bouillie de pixels. Donc, c'est pas idéal non plus. C'est également le cas quand on passe en mode nuit. Alors déjà, on n'a pas beaucoup de différence entre le mode nuit et le mode normal. Mais pareil, on a une espèce de grosse bouillie de pixels sur le dessus. Et si on passe, même sur des photos où je vise pas autant des arbres, enfin où l'arbre est un peu plus proche, on va prendre celle-là par exemple. Voilà, là on voit sur toute la partie haute, on a le même souci. On a une espèce de bouillie partout sur le dessus. Là c'est à peu près net, mais là c'est flou et c'est pas du flou joli, c'est pas du flou qui est là parce que il y a un effet bokeh ou voilà. C'est flou parce que c'est l'optique est pas incroyable. Donc voilà, mais après c'est un téléphone qui s'en sort relativement bien, c'est-à-dire que c'est pas des photos qu'on peut qualifier de moches. Hein. Là je suis en mode automatique. Là, je suis en mode nuit. Il a des fonctions qui sont un peu marrantes. Voilà, le mode super lune. Donc ça, c'est une photo normale. Ça, c'est une photo en mode super lune. Ça vous agrandit la lune, tout ça. On dirait surtout que l'obturation est trop lente. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est normal sur du bonne nuit. En vrai, c'est plutôt logique. Mais par contre, normalement, il faut une compensation de mouvement. Ah, il n'y avait pas beaucoup de vent. Je précise, lors du... Il n'y avait pas beaucoup de vent. MDR. Salut sur Nout. C'est marrant, en vrai. En vrai, c'est marrant. Alors, c'est évidemment des. Ils vont récupérer des informations en ligne et tout ça, ça fonctionne avec de l'IA, donc c'est pas forcément une vraie photo de la Lune, mais ça va au moins respecter la colorimétrie. Là, typiquement, la Lune, on voit ici qu'elle est floue, ils l'ont gardée floue là. J'ai un autre exemple pour le coup avec une Lune qui est plus nette, où pour le coup la Lune est restée nette également sur le mode Super Lune. Il l'a agrandi floue, ouais, mais c'est normal parce qu'en fait elle était floue de base. Et il va s'adapter. Alors, que j'ai toujours l'autre photo, je vais regarder. Hop. Que j'ai toujours l'autre photo. Je peux peut-être vous montrer. Je les retrouve. Ou peut-être qu'elles étaient. Alors attendez. Je vais regarder ça sur un autre navigateur. Enfin, sur une autre page. Et comme ça, je vous les montre après. Les photos de la Lune. Hop, là on réalise. Voilà, on peut voir sur ça. Là, vous voyez que la Lune, pour le coup, donc ça c'est la photo en mode normal. Ça c'est la photo avec la Lune. Donc là, pour le coup, la Lune a été agrandie, mais en mode classique. Enfin, en mode, elle est nette, quoi. Il n'y a pas de souci. Et il respecte bien le cycle aussi. C'est-à-dire que si on regarde un peu dans le détail, on voit que la Lune, elle était dans cette forme-là. Bah, c'est le cas aussi sur la deuxième. Ils ont conservé la forme. Après, je pense que ces informations-là de la Lune, normalement, elles ne sont pas dans l'image. Donc, il a dû forcément récupérer des images de la Lune ailleurs. Pont de Levallois. Où est-ce que tu as vu le pont de Levallois? Il n'y a pas de pont de Levallois. Sur le Vivo. La focale était sur le personnage, ok, mais perso je sais aussi les soirs de pleine lune, les focales et infinies souvent sont pas sur infinies. Oui, faut faire attention, faut bien se mettre en... Là pour le coup, oui, j'avais fait effectivement la focale, la mise au point sur Maxime, puisque c'est un portrait, et c'est aussi pour ça du coup que derrière on a des gens qui sont un peu flous, que si on regarde dans le détail, en vrai, je l'avais rétréci cette photo. Dans le détail, lui il est à peu près net, mais les gens derrière sont flous. Puisque on utilise quand même un capteur qui est un grand capteur, hein. Donc forcément il y a plus de chances d'avoir du flou à l'arrière, dès qu'on n'est pas dans la zone de mise au point. L'immeuble est au pont de Levallois. Non, je t'assure que non. C'est pour ça que j'ai pas mis l'image, c'est que l'immeuble est à côté de chez moi, et je voulais pas mettre d'image de là où je vis. Mais tant mieux, ça ressemble à un immeuble qui est au pont de Levallois. Ça, j'aurais pu le laisser, du coup, ça aurait induit les gens en erreur. Le mode portrait, pour le coup, le mode portrait, on a un mode portrait qui fonctionne bien, puisqu'on a un capteur qui est dédié spécifiquement au mode portrait. Et pour le coup, on le voit sur les photos d'Hugo, ça marche plutôt bien. Là on a un bon flou. Alors sur cette photo c'est pas ce qui est le plus visible, parce qu'on a un arrière-plan qui est blanc de toute façon, mais si on regarde sur les autres, voilà, là j'ai fait exprès de mettre Hugo face à plein d'objets, et pour le coup ça marche bien, alors qu'il a des cheveux tout foufou. C'est bien détouré, les mèches sont bien reprises. Alors évidemment il y a des cheveux qui normalement sont là, typiquement, voilà, on voit ceux-là qui vont par-dessus le carton, ceux-là ici qui disparaissent un petit peu sur la photo en mode portrait, mais ça passe plutôt pas trop mal. Et là pareil, là pour le coup on était vraiment en basse lumière, dans un couloir sans aucune lumière, etc. Enfin complètement dans le noir, et ça marche bien aussi en basse lumière. Forcément ça va un peu abîmer le grain de la peau, etc. On va pas avoir autant de netteté, c'est un peu lissé pour virer le bruit numérique, mais ça marche pas trop mal. Quoi d'autre, le mode 50 mégapixels, là on peut voir la différence entre les deux. Là on est en 12,5 ici, et là on est en 50. Alors je sais pas si sur la vidéo du stream, enfin vous le verrez bien, mais il y a une différence qui est assez notable entre les deux. N'hésitez pas à aller sur l'article. Et voilà, les selfies ça marche bien. Les performances, c'est pas un Snapdragon 8 Gen 2, c'est un MediaTek Dimensity 1200, mais qui est une puce qui est très efficace. Qui permet assez facilement de jouer au Sudoku. J'étais très content de cette illustration. Salut Mécano, j'espère que ça va bien. Grève des coiffeurs. Moi, faut que j'y aille ce week-end, hein, pour le coup. Donc, c'est un Dimensity... 9200, pas 1200. 9200. Et qui, on le voit là sur les performances. En vrai, on est très très proche de ce qu'on a sur le S23 Plus, qui lui est équipé du Snapdragon 8 Gen 2. On a des chiffres qui sont assez similaire, donc en fait c'est pas un souci en soi. On a une puce qui certes n'est pas un Snapdragon, mais qui marche très bien. Pour l'audio, c'est évidemment, il n'y a pas de prise jack, on a de la stéréo quand même. Autonomie qui est un peu juste, c'est-à-dire que moi je suis pas un gros utilisateur de smartphone. Généralement j'utilise l'écran de mon smartphone moins de 4 heures par jour, enfin l'écran est allumé moins de 4 heures par jour, et là pour le coup le Vivo X90 Pro ne m'a tenu que 38 heures avant de passer de 100 à 1% de batterie. Sur cette période l'écran est resté allumé que pendant 2h52, donc ça fait moins 3 heures d'écran allumé, et c'est surtout Chrome qui a été utilisé pendant moins de 30 minutes, qui a utilisé plus d'un quart de la batterie du smartphone, donc c'est un peu juste en termes d'autonomie. En revanche, évidemment, on parle de Vivo, on a une charge 120 watts qui va permettre de récupérer 100% de la batterie en 25 minutes. Et ça, c'est un confort d'utilisation. Ah, j'adore. Il est 5G, évidemment. Et il est disponible en version 12 256 Go à 1200 €. Et donc c'est un 8 sur 10 parce qu'il y a un design qui est pas mal, interface simple et personnalisable, performance de haute volée, il a pas de gros défauts. C'est-à-dire qu'on peut pas, je saurais plus m'en passer, ouais je suis d'accord. Moi, oh, il me faut au moins 60 watts maintenant. Design soigné, écran de bonne facture, interface simple et personnalisable, performance de haute volée, bonne photo avec le capteur principal, charge filaire très rapide. En revanche, prix élevé, pas de téléobjectif x3, x5 ou x10. Moi, je vous avoue, c'est un peu ce qui me refroidit pour un prix de 1200 €. Le fait de ne pas avoir ça, c'est vraiment dommage. Autonomie un peu légère. Seulement 3 mises à jour majeures qui sont annoncées par Vivo. Sachant qu'aujourd'hui, on a pas mal de constructeurs qui proposent 4, notamment Samsung, qui propose 4 ans de mises à jour majeures. Et pas de prise jack ni d'extension de stockage. En fait, c'est un téléphone qui est bien. Pour en avoir parlé pas mal avec Titouan, c'est un téléphone que j'aurais du mal à recommander. Particulièrement par rapport, enfin pour ce prix-là. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit j'ai 1200 € à mettre dans un téléphone, on l'orienterait plus vers du Samsung, du Google, du Oppo ou du Xiaomi. Il a pas un petit truc. C'est-à-dire que le capteur principal, certes, il est très bien, mais c'est le même que sur le Xiaomi. Samsung par exemple a proposé sur le Galaxy S23 Plus un zoom de meilleure qualité. Il y a des autonomies qui sont meilleures aussi chez la concurrence. Il a pas de petit truc en plus qui fait ah ok. Je vais prendre celui-là. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas un mauvais smartphone pour autant, évidemment. De toute façon, aujourd'hui, à 1200 €, ça n'existe pas, des mauvais smartphones, normalement. Tant qu'il n'explose pas, il n'y a pas de souci. Voilà pour le Vivo X90 Pro, et on en fait une vidéo qu'on tournera vendredi, d'ailleurs. Donc il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube. À ce prix-là, ça pique quand même. Ouais. Ouais, le prix est élevé. Après, c'est le cas de tous les smartphones. C'est-à-dire que quand je comparais avec les autres, c'est pour ça que, par exemple, je citais le S23 Plus et pas le S23 Ultra. Le S23 Plus, il est à, pas pareil, 1200 €. Et on parle du S23 Plus, pas du Ultra. Mais il a un zoom, il a un téléobjectif qui va permettre un zoom x3. Mais par contre, il n'a pas de charge rapide. Salut Batix. Et salut LSG Snake aussi, je t'ai salué. Merci pour le follow à CoolMe. Alex également. Donc voilà pour le test du Vivo. Je fais un petit tour pour voir s'il y a d'autres points, d'autres actus qui ont été publiés. Pas encore. Et bien écoutez, on va passer là-dessus. Pixel, Android 14, révolution de l'IA. Google date sa conférence aux énormes enjeux. C'est la conférence Google I.O. Donc conférence qui a lieu tous les ans au printemps et qui permet à Google de présenter les nouveautés autour de ses services. Ça va être aussi bien sur Google Maps que la recherche, que Android, que des produits, que Chrome OS, que Google Maps, que Gmail potentiellement, que voilà. Google a officiellement lancé sa communication autour de sa conférence annuelle Google I.O. En 2023, les enjeux sont particulièrement élevés car la firme pourrait y jouer son avenir. Chaque année, autour du mois de juin, les gens de la tech organisent de grandes conférences à destination des développeurs pour tenter d'attirer la créativité dans leur écosystème. Le marché du smartphone et du web devenant de plus en plus mature, ces conférences ont un peu perdu leur intérêt au fil des années. En 2023, toutefois, celle de Google sera particulièrement attendue car la firme semble être à la croisée des chemins face à son avenir. On sait désormais que l'on découvrira la Google I.O. 2023 le mercredi 10 mai 2023, dans 2 mois au moment où cet article est écrit. Google devrait y inviter la presse et les développeurs à Mountain View dans ses locaux. L'événement sera également retranscrit en direct sur Internet. Le logo de l'événement a l'inspiration spatiale. Effectivement, t'as vraiment le côté à la conquête de l'espace. Le logo de l'événement à l'inspiration spatiale laisse peu de place au doute quant à la présence d'Android 14. La prochaine version du système utilise lui aussi un logo en référence à la NASA. On attend aussi la présentation de nouveaux appareils lors de cet événement. On pense notamment à la Google Pixel Tablette, c'est vrai, qui devrait être là pour convaincre les développeurs de s'intéresser à nouveau à ce format d'écran. On sait aussi que, c'est, pour le coup, en plus, c'était à la Google I.O. 2022 que Google avait annoncé pour la première fois qu'ils allaient lancer une tablette. Ensuite, ils l'ont montré un peu plus en détail à la conférence Made by Google en septembre, mais c'était à la Google I.O. qu'on l'a vu d'abord, donc ça fera un an. On sait aussi que la marque travaille sur un premier smartphone à écran pliant. Là encore, la Google I.O. serait serait la bonne occasion pour obtenir le soutien des développeurs. Plus simplement, le Google Pixel 7a a aussi fait l'objet de fuites et pourrait être officialisé lors de cette grande conférence. Et surtout, c'est ça qui est intéressant. Ça va, je veux. Bah écoute, ça va très bien, Batik. J'espère que toi aussi. Thème clair en 2023, sérieux, je fais ce que je veux. C'est agressif, ça. Oui, thème clair, j'ai toujours tendance à préférer les thèmes clairs. Je trouve que les thèmes sombres fatiguent davantage les yeux parce que tu lis du blanc sur du noir et c'est moins bon pour la lisibilité que de lire du noir sur du blanc. Même si de fait, ça fatigue les yeux parce que tu as de la lumière, t'as plus de lumière blanche, etc. Mais j'ai une lumière derrière l'écran qui permet justement d'atténuer un petit peu tout. Et surtout, j'ai des écrans qui sont bien calibrés. Voilà. Avec une température des couleurs de 6500K, comme on le fait systématiquement sur Android. On sait que la panique règne chez Google depuis quelques mois devant la montée en popularité des outils comme ChatGPT et le nouveau Microsoft Bing. La firme aurait lancé plus de 20 projets en interne autour de l'intelligence artificielle pour la seule année 2023. Depuis plusieurs années, la Google I.O. était la conférence choisie par la firme pour présenter ses recherches en matière d'IA. Cette année, plus que toutes les autres, ce sera l'occasion pour le géant de reprendre la main sur ce secteur. Tiens, d'ailleurs, il ne parle pas de Bard. Effectivement, enfin, Google a annoncé il y a quelques temps qui... Je vais retrouver les articles, hein, ce sera plus simple. Le 6 février, Google a annoncé Bard, qui est son nouveau système d'intelligence artificielle conversationnelle. Google vient d'annoncer plusieurs projets liés à l'intelligence artificielle dans un article de blog cité par Sundar Pichai, le PDG de l'entreprise américaine. Première annonce la plus importante est le lancement de Bard, un robot conversationnel concurrent de ChatGPT d'OpenAI. Bard sera capable de répondre à des questions avec du texte imitant la syntaxe humaine, mais ce ne sera pas disponible au public immédiatement. Il sera testé par des testeurs de confiance dans les prochaines semaines avant sa disponibilité publique. Bard est basé sur Lambda, donc Language Model for Dialogue Application, comparable à GPT-3 d'OpenAI. Lambda est différent des autres modèles de langage car il a été formé sur le dialogue et non sur le texte, ce qui inclut des concepts avancés comme l'intention de l'utilisateur multimodal, l'apprentissage par renforcement et les recommandations afin que la conversation puisse passer d'un sujet à l'autre. Bard dispo dans Google Kitchen. Qu'est-ce que c'est que Google Kitchen ? J'étais passé complètement à côté de ce truc. Ok, c'est un système où on peut tester les services d'IA de chez Google en les testant en avant-première, c'est ça ? Ouais, Ok. Ouais, ça avait été présenté à Google IO l'an dernier. D'accord. Ok. Google Kitchen, c'est pour les devs. Ok. Donc on verra comment ça se passe pour Bart. Salut Antonyme. Salut également à Dark Eagle. Et Guillaume FR, je crois que je te dis bonjour tout à l'heure. Ça va barder. Et salut Jinx aussi, ce bon vieux Jinx. Donc du coup, ouais, ça va être, dans deux mois, ça va être intéressant de suivre ce que va faire Google autour de l'IA, particulièrement évidemment autour des autres services, mais il y a de très fortes chances pour que l'IA soit un peu au cœur des ambitions de la firme. Je pensais que c'était pour les femmes texanes qui ne sortaient pas leur cul. Ouais. Pourquoi Texan en plus ? Et pourquoi les femmes, bien évidemment, ça va sans dire. Merci pour le follow, Aura. Aura. Est-ce que vous avez un journaliste à la Google I.O. à Mountain View ? Alors, peut-être. On a un pigiste, dont j'ai oublié le nom, qui est développeur hein, et qui a déjà fait plusieurs fois la Google I.O. Je ne sais pas s'il y va cette année. Je sais pas encore. Bonne fête. Oui, c'est ça. Alors, c'est... Putain, non, pas de bonne fête à toutes les femmes, s'il te plaît. Bonne journée internationale des droits des femmes. Mieux. Grégoire Marquez, exactement. Merci, Guillaume. Putain, il est fort. Il est très fort, Guillaume. Exactement. Grégoire Marquez, qui est pour le coup très investi dans la communauté Android en général. Si je dis pas de bêtises, il a des projets. Grégoire Marquez, je sais plus ce que c'est son compte Twitter. Il bosse sur Flutter ou je sais plus quoi, enfin des systèmes de développement, voilà. Membre du Paris Android User Group, exactement. Édouard Marquez, tout à fait. Oh, merci Simon. Bonjour Simon, j'espère que ça va bien. Simon, auprès de qui vous pouvez vous plaindre si jamais il y a trop de contenu sponsorisé sur le site ? C'est un collègue. Je plaisante, hein, vous plaignez pas auprès de lui, le pauvre. C'est pas lui qui choisit. Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54, je m'en vais alors. Une fuite dévoile les prix et fait peur pour le rapport qualité-prix. Samsung proposerait une belle hausse de prix sur sa gamme pourtant réputée pour son accessibilité. C'est vrai que la gamme Galaxy A, c'est un peu... on parle systématiquement des Galaxy S, qui sont les modèles les plus haut de gamme de chez Samsung. Mais en vrai, c'est certainement pas les Galaxy S qui se vendent le plus, c'est la gamme Galaxy A qui fait le plus de volume pour le constructeur coréen et qui se vend par carton. Parce que bah, les gens qui veulent du Samsung mais qui n'ont pas les moyens de dépenser 1000 euros dans un smartphone, évidemment, ils vont se pencher vers les Galaxy A. Donc les Galaxy A34 et A54 devraient être les modèles un peu plus accessibles, théoriquement, mais a priori, ils vont subir l'inflation de plein fouet, donc avec une belle hausse de prix qui est attendue. Une fuite prétend dévoiler les prix des futurs Galaxy A, la facture sera salée. Refaisons le point. Pour le coup, Snopitech, en plus, il est fiable. C'est un leaker qui, a priori, a de bonnes informations. Samsung avait lancé le Galaxy A33 à 379 euros et le A53 à 459 euros. Puis là, on aurait un A34 à 419, donc ce qui ferait une augmentation de 60 euros. Et un Galaxy A53 à 459, donc ce qui ferait également une belle augmentation en passant à 519. Donc c'est pareil, 60 euros. Et ça fait beaucoup. On dépasserait donc le palier des 500 euros pour ce qui est en principe un smartphone représentant le milieu de gamme. Historiquement, la gamme A5 a été conçue pour un tarif autour de 400 à 450 euros. Est-ce qu'on a eu des leaks pour les specs ? Je ne crois pas. Avec les hausses successives de prix sur ces segments où se trouvent généralement les smartphones les plus intéressants sur rapport qualité-prix, le choix pour une partie des consommateurs va se restreindre. Reste la gamme Galaxy A10 autour des 200 euros, mais elle a généralement plus de mal à être pertinente face au Redmi Note de chez Xiaomi. Samsung devrait officialiser ses nouveaux smartphones dans les semaines à venir. Je vais vérifier si on n'a pas de fuite. Galaxy A54, on a le prix, voilà, specs. Je pense pas qu'on ait de... On a des fuites, mais on n'a pas encore de... Voilà, un rumors. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, Pocket Lint ? Pocket Lint. Donc les prix, design display, donc ouais, et ce serait... De toute façon, faut pas... C'est pas la gamme sur laquelle il faut s'attendre à la révolution en termes de caractéristiques. Hein. Les A correspondent au J ou au A d'avant ? Plutôt au A. Les J, c'est... je crois que c'est la gamme M, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je trouve que l'iPhone est le meilleur rapport qui a été pris car suivi plus long des mises à jour, donc changement d'iPhone tous les 5-6 ans. Oui, c'est un point qui peut se soulever. Bonjour, je suis nouveau sur Twitch, je vous suivais déjà sur YouTube et sur votre site web en tant que passionné de tech. Toute l'équipe est incroyable. Ben, merci et au revoir. Ça fait plaisir. Les Pixels, c'est pas mal aussi. Les Samsung sont bien aussi. Hein. Après, on n'a pas 5-6 ans. C'est vrai qu'Apple est un peu imbattable en termes de longévité durée de mise à jour. Pardon. Samsung s'en sort pas trop mal avec 4 ans. Ah oui, de toute façon, Dark Eagle, ne t'attends pas à ce qu'il y ait du Snapdragon 8 Gen 2 sur des smartphones milieu de gamme chez Samsung. Surtout que pour le coup, Samsung généralement est assez mauvais sur les performances de ses smartphones milieu de gamme. Généralement, c'est pas les téléphones les plus puissants qui soient. Tu vas avoir mieux chez Xiaomi par exemple, avec la gamme Poco, qui elle va permettre d'avoir vraiment des bonnes performances. Samsung sur milieu de gamme, pendant longtemps, c'est le gros avantage qu'ils avaient, c'est que bah, par exemple, ils avaient de l'OLED. Là où les concurrents, à 300 euros, ils proposaient pas d'OLED. Maintenant, ça commence à être le cas. Donc voilà. Eh bien écoutez, les A54 et A34, donc ça devrait pas tarder à arriver. C'est vrai que historiquement, c'est à peu près en début d'année généralement qu'ils arrivent, donc ça ne devrait pas trop tarder. Quoi d'autre ? A54, on va parler des enceintes Sonos, je pense. On va parler des enceintes Sonos. C'est le Morning Go également. L'intérêt de Samsung sur le game, c'est One UI. Oui, si tu aimes One UI. Après, il y a des gens qui aiment bien MIUI, hein, chez Xiaomi. Donc ça dépend. Les enceintes Sonos, qui a présenté deux nouvelles enceintes. Pour le coup, ça faisait un moment qu'elles avaient fuité en plus. Que je me mets comme ça. Non, comme ça. Sonos a dévoilé deux nouvelles enceintes, donc ça faisait un moment qu'elles avaient fuité et qu'on a pu prendre en main. Donc je vous montrerai la prise en main et les 10 points à retenir sur ces deux enceintes-là. Donc il y a la Sonos Era 300. Ce modèle-là, et il y a la Era 100 qui vient remplacer la Sonos One. En parlant de Google I.O., pas d'infos sur la date de Microsoft Build. Non, c'est pas annoncé encore. Les leakers avaient parlé du 23 ou 25 mai, mais pas de confirmation. Pas encore à ma connaissance. Après, les Appleiens sont souvent des utilisateurs lambda, ils ne sont pas vraiment exigeants. Une amie fan Apple, elle a quand même trouvé mes photos magnifiques de Xiaomi quand elle m'a envoyé les siennes, j'ai vite compris. Photographie en 640 pixels, et moi je suis envoyé des images. Ça dépend des gens, leur Gibus. Merci Geoffroy pour Microsoft Build, je t'en prie. Il y a des gens qui ont des iPhones et qui se connaissent très bien les photos, et je t'assure qu'il y a des gens qui utilisent des smartphones Samsung qui ne connaissent pas du tout en photo. Enfin, il faut pas généraliser comme ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de prise en main des Sonos, elles ont l'air massives, elles se prennent bien en main littéralement. je vais pouvoir vous montrer ça parce qu'il me semble que j'ai le. Je les ai supprimées ou pas, les photos que j'ai téléchargées. Era 300 Lifestyle. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir voir. Là, ça vous donne une échelle avec, avec une main humaine. Enfin, avec une personne humaine. Donc, je pense que la Era 300 est un peu grande. Alors, c'est pas d'autres prises en main à nous. Ça, c'est ce qu'on appelle des photos Lifestyle. Donc, c'est des photos que les constructeurs nous envoient avant. Histoire de montrer le produit en situation et de pas l'avoir juste sur un fond coloré ou un fond blanc, ça montre des situations. Donc vous voyez que là, pour le coup, la Era 300 est quand même massive. La Era 100, elle va être plus un poil plus compacte. Voilà, la Era 300, là on voit quand même la taille. C'est un gros joujou. Donc voilà pour Sonos. Perso, j'ai la One, elle est massive quand même. Ouais, bah voilà. Mais en fait, on va retrouver le même design sur la Era 100, donc celle-là. Je trouve l'écosystème incroyable, mais il manque le Dolby Atmos quand on connecte deux Sonos. Ça arrive. C'est tout l'intérêt à Aura. C'est tout l'intérêt, c'est que pour le coup, la nouvelle Era 300 est compatible Dolby Atmos. Elle se met en Challenger des enceintes type 2 Vialet Phantom. Plus... En vrai, les 2 Vialet Phantom, faut... Enfin, ça ne se vend pas. Donc, ils veulent pas concurrencer des enceintes qui ne se vendent pas parce que de toute façon, elles sont beaucoup trop chères. En revanche, elles sont là... pour concurrencer le HomePod, pour vraiment en tout cas la Era 300. Donc juste, je vous la fais rapide sur la Era 100. Donc la Era 100, c'est une petite, enfin une enceinte petite, c'est une enceinte d'intérieur, donc il n'y a pas de batterie, c'est une enceinte, vous avez besoin qu'elle soit chargée, enfin qu'elle soit alimentée en permanence, qui va ajouter quelques fonctionnalités en plus de la Sonos One, à savoir compatibilité Bluetooth, donc pas uniquement Wi-Fi mais également Bluetooth, une prise USB-C qui va vous permettre de connecter une source filaire si vous en avez envie via un petit adaptateur à intégrer en plus, donc comme vous avez sur votre smartphone, sauf que là ça va dans l'autre sens. Vous ne pourrez pas utiliser l'adaptateur de votre smartphone d'ailleurs, c'est forcément un adaptateur dédié, puisque on y reviendra après. Merci pour le follow, Yo-Yo Wheels. Donc par exemple, si vous voulez brancher une platine vinyle, qui est un peu l'exemple qui avait été donné par Sonos, voilà, là ce qu'on voit ici, ils montrent une platine vinyle avec une enceinte à côté. Donc ça, on le retrouve sur les deux. On a trois amplificateurs avec donc deux tweeters stéréo pour les aigus, un midwoofer pour les médiums et les graves sur ça. Des micros, évidemment, et voilà. Donc celle-là, elle est relativement classique. En revanche, là où c'est intéressant, c'est sur la Era 300, donc le gros modèle qui, elle, va avoir 6 amplificateurs, donc avec 4 tweeters pour les aigus et 2 pour les aigus et les médiums, et 2 woofers qui, eux, vont s'occuper des basses. Donc un son qui va être vraiment canalisé, stéréo, donc architecture stéréo avec une bonne séparation des canaux gauche et droite, et compatibilité avec le Dolby Atmos pour la musique. Ce qui va permettre de jouer des morceaux en audio 3D avec une compatibilité Apple Music et Amazon Music sur les fichiers Dolby Atmos. Il n'y a pas Tidal, en tout cas pas au lancement. Peut-être que ça arrivera plus tard via une mise à jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bonne journée, Batix. Il y a un petit stéréo avec une seule, exactement. Donc on peut l'utiliser en enceinte stéréo. Donc vraiment concurrente directe du HomePod. Et voilà, donc avec des fonctions identiques à ce qu'on avait aussi. Ça, c'est intéressant. On a une nouvelle version de Trueplay. Trueplay, si vous ne connaissez pas ces systèmes de calibration de Sonos, qui jusqu'à présent vous permettait uniquement avec un iPhone d'utiliser le micro de votre iPhone pour calibrer la pièce. Donc en gros, l'enceinte envoyait du son et ensuite vous vous déplaciez et en fonction de comment est-ce que le son était reçu directement par le micro de votre smartphone, vous aviez une calibration spécifique pour que l'enceinte s'adapte bien à l'environnement. Donc ça arrive sur Android, mais non pas avec le micro de votre smartphone, simplement avec des micros qui sont intégrés sur l'enceinte, ce qui est quand même un bon pas en avant puisque jusqu'à présent c'était juste pas possible sur Android, donc c'est déjà pas mal. Et Mwendigo pour info, pas de compatibilité non plus avec Deezer, c'est logique parce que Deezer ne fait plus d'audio 360. Deezer n'a jamais été partenaire de Dolby Atmos, ils étaient partenaires de Sony 360 Reality Audio et ils ont arrêté. Ils font plus de fichiers en audio spatial. Donc non, pas de compatibilité avec Deezer sur l'audio spatial. Bonjour Jinta, j'espère que tu vas bien aussi. En challengeant le HomePod, ça veut dire également la possibilité de l'utiliser en assistant.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tout à fait, puisqu'il y a Alexa qui est embarquée sur les deux enceintes de, avec des micros, sur les deux enceintes de Sonos, on a Alexa, Amazon. Ils font plus d'audio 360, j'avais essayé avec mes Sony il y a quelques mois, non, c'est fini, et d'ailleurs, en plus, c'était un peu compliqué chez Deezer, il fallait non seulement un abonnement dédié, si je dis pas de bêtises, mais en plus une application dédiée, c'était pas l'application Deezer, c'était Deezer 360 de mémoire. 360 by Deezer ne sera plus supporté à partir du 31 octobre 2022. Donc format standard uniquement maintenant. C'était pas incroyable le 360 chez Sony. Non, mais c'est aussi pour ça que tout le monde est passé chez Dolby Atmos en fait. Tout le monde est passé chez Dolby Atmos. Les seuls maintenant à conserver le 360 réalité audio de chez Sony, c'est Tidal, mais qui propose aussi Dolby Atmos, et Amazon Music, mais qui propose aussi Dolby Atmos. Donc en fait, autant prendre Dolby Atmos. Donc la compatibilité Dolby Atmos va être la plus pertinente. Les deux enceintes de Sonos seront disponibles dans le commerce à partir du 28 mars prochain. Elles seront proposées en deux coloris, noir ou blanc, avec du plastique recyclé. La Sonos Era 100 sera proposée en France au prix de 229€, tandis que la Sonos Era 300 sera affichée à 499€. D'ici là, vous pouvez retrouver notre prise en main des Sonos Era 100 et Era 300. Allons-y, la prise en main, je vous l'envoie aussi, parce que pour le coup elle est longue, donc on va peut-être pas tout faire. C'est vrai que la plupart des constructeurs n'utilisent pas les smartphones Android pour la calibration des enceintes car les micros ne sont pas standardisés par rapport aux iPhones, donc le micro est tout le temps le même, plus facile pour le constructeur de se calibrer. Exactement, c'est là où c'est intéressant, c'est pour ça que pour le coup il n'y a pas de calibration via le smartphone sur Sonos, c'est qu'en fait si tu le fais sur iOS c'est facile parce que des iPhones il y a 4 modèles par an, donc c'est très facile pour le constructeur pour Sonos par exemple, de mesurer la qualité de ce micro des 4 modèles qui sortent par an. Et voilà. Sur Android, des centaines de smartphones qui sortent tous les ans. Donc les constructeurs n'ont aucun moyen de mesurer tous ces smartphones-là, la qualité des micros, de faire la calibration et de gérer logiciellement tout ce hardware-là, tous ces microphones. Donc c'est juste pas possible. Hello pour les intras Sony, est-ce que tu sais s'ils vont bientôt sortir un nouveau modèle? Salut Kobari, j'ai pas d'infos, très franchement. Très honnêtement, même si j'avais des infos, j'aurais pas le droit de les dire. J'ai pas d'infos, mais je ne serais pas étonné qu'effectivement ils en sortent un rapidement si tu te fies. Est-ce que je crois que j'ai fait une news en plus il y a pas longtemps. WF-1000XM5. Oui, voilà. En gros, ils ont mis à jour récemment les WF-1000XM4 qui sont enfin compatibles avec le Bluetooth multipoint. Et comme je le dis, grosso modo. Rappelons par ailleurs que Sony pourrait prochainement lancer sa nouvelle génération d'écouteurs sans fil haut de gamme, les WF-1000XM5. Si le constructeur s'est concentré l'an dernier sur sa gamme de casques avec le lancement du WH-1000XM5, il s'était écoulé 2 ans entre les sorties des WF-1000XM3 en 2019 et des WF-1000XM4 en 2021. L'année 2023 devrait donc être de nouveau celle des écouteurs sans fil haut de gamme du côté de Sony. Donc oui, j'ai pas d'infos, mais ça paraît plausible d'avoir des WF-1000XM5 qui sortent rapidement. Exactement, ça fait 2 ans bientôt. Donc, et puis l'an dernier, c'était le WH. Il y a des chances que cette année, ce soit le WF. Enfin, les WF. Je croise les doigts. Et puis surtout, ils ont dû... Là, je suis très curieux de ce qui va se passer sur le domaine de la réduction de bruit. Parce que Bose et Apple ont frappé vraiment... Enfin, je vous le répète à chaque fois, mais... Ça là, les Bose QC Earbuds 2, c'est des petits bijoux en termes de réduction de bruit, c'est incroyable. C'est la meilleure réduction de bruit qui existe sur le marché, au-delà même d'un casque Bluetooth comme le Sony WH-1000XM4 que j'utilise, que j'aime beaucoup. Mais j'ai encore une meilleure réduction de bruit sur les écouteurs de chez Bose. Donc Sony peut faire très fort pour se mettre à niveau avec ses nouveaux écouteurs et Bose peut intégrer cette technologie-là de réduction de bruit dans un nouveau casque. Et on a vu, il n'y a pas longtemps, une fuite d'un casque qui s'appellerait le Quiet Comfort Ultra. qui pourrait sortir prochainement et qui bah, potentiellement pourrait intégrer, pourrait déjà fusionner à la fois les deux gammes actuelles de casques de chez Bose, donc le QC45 et le Headphone 700. Ce sera un espèce de mélange des deux. Et en plus de ça, avec potentiellement la meilleure réduction de bruit, enfin la même réduction de bruit que sur les écouteurs. Je pense que sur le marché de la réduction de bruit cette année, ça peut être très intéressant entre les casques de chez Bose et les écouteurs de chez Sony. Bose, c'est sans moi, j'en ai marre de leur mousse en carton. Toutes les mousses s'abîment hein, chez Sony aussi. Les Sony bien plus solides. Après, les mousses, ça se remplace. Mais ok, je comprends. Bose 700 fragile, les mousses partant... Oui. D'ailleurs, la qualité de la réduction de bruit et la qualité sonore sont notablement différents en mieux. J'ai cru que c'était placebo, mais des amis en les ayant m'ont confirmé mon ressenti sur les M4 après mise à jour. Ok, bah, tant mieux si ça améliore. Donc, on était sur les Sonos, les deux enceintes de chez Sonos. On a fait un petit point parce que bah, pour le coup, on avait Maxime Johnson, donc un opigiste canadien, qui était sur place à Santa Monica. Je crois que c'était il y a un mois, au moment de la présentation, donc en avant-première des enceintes de chez Sonos. Il a pu évidemment prendre des photos des enceintes. Donc là, on voit une photo avec beaucoup de moiré, ce qu'on appelle hein, cet effet optique-là. Une photo avec donc une photo des enceintes, mais surtout, il a fait bah, une espèce de prise en main aux 10 points, 10 questions, enfin 10 points qui sont à noter. Donc déjà, c'est une première plateforme depuis 2017. Et ce que je vous disais, c'est par exemple, cette nouvelle plateforme logicielle et hardware va permettre bah, moins de consommation d'énergie. C'est pas mal. Connectivité Wi-Fi 6, c'est bien aussi. Entrée USB-C, c'est cool aussi et on verra un peu plus tard pourquoi. TruePlay, compatible Android, ça c'est cool. Compatibilité Bluetooth, ça c'est cool aussi. Et voilà. Spatialisation réussie avec Dolby Atmos, soit Sonos Era 300, ça c'est ce qu'on a vu avant. Pour le coup, Ulrich a pu les essayer aussi à Paris plus récemment. Il n'était pas hyper convaincu de la spatialisation. Donc on verra sur un test. Tristan va s'en occuper normalement. Donc on verra sur le test. La Sonos Era 100, on a quand même une grosse amélioration en termes de qualité audio par rapport à ce qu'on avait avant sur la Sonos One. Donc ça, c'est plutôt cool. J'étais impressionné par la qualité de la Era 100. Je l'ai moins écouté que la Era 300, mais je connais bien la Sonos One et l'amélioration est considérable. Elle s'entend d'ailleurs dès les premières notes dans une petite pièce. La Era 100 pourrait certainement me suffire, même pour une écoute prolongée. Le port USB-C pourrait être utilisé comme entrée audio auxiliaire avec un adaptateur, ce qui pourrait simplifier l'ajout d'un tourne-disque à un système Sonos. Jusqu'à présent, cette opération nécessitait de passer par une Sonos 5 ou un Sonos Port à 449€, dont les prix sont plutôt prohibitifs. À 279€ pour une Era 100, la pilule est plus facile à avaler. Deux adaptateurs seront offerts en option avec les nouvelles Era 100 et 300, donc doté d'un port audio 3,5 mm seulement, 25€, et un doté d'un port audio 3,5 mm et d'un port Ethernet pour 45€ si jamais vous voulez la brancher en filaire. Enfin, en filaire internet. Et d'autres adaptateurs pourraient arriver sur le marché avec le temps, ce qui est bien avec un port USB-C. Si les consommateurs nous disent qu'ils veulent un adaptateur optique ou RCA, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est cool. Les Bose en écouteurs ont quand même l'avantage de ne pas être trop pénétrants dans le conduit pour la meilleure ANC. Dès que Sony arrive à ce niveau, ils n'auront presque plus de défauts. On est complètement d'accord aussi là-dessus, Monique. Pas de AirPlay sur les... Enfin, à ma connaissance. Non, pas de AirPlay, puisque c'est le protocole de chez Bose, de chez Sonos. Donc non, pas de AirPlay, c'est du Sonos. Depuis qu'ils ont enlevé le maître esclave sur les écouteurs Bose, j'avoue que je regrette un peu mon achat des Buds 2. Ils sont très bien, les Bose. Et encore, c'était pas un souci vraiment majeur sur ces écouteurs-là. Pas donner les adaptateurs, non. Et malheureusement, le problème, c'est que la plupart des adaptateurs sur le marché ne fonctionneront toutefois pas, puisque ceux-ci convertissent habituellement un signal numérique en signal analogique, alors que c'est l'inverse qui est nécessaire ici. Voilà. Donc il faudra forcément un adaptateur de chez Sonos. Après, il peut y avoir des fabricants tiers qui proposent leurs propres adaptateurs. C'est a priori possible aussi. On a du plastique recyclé, donc on n'a pas exactement les mêmes teintes, notamment sur le blanc. Voilà, c'est pas aussi brillant qu'avant, change un petit peu, mais si jamais vous avez déjà des enceintes Sonos, ce qui est tout l'intérêt, hein, c'est que Sonos, c'est un écosystème d'enceintes. Si jamais vous avez déjà des enceintes Sonos, ce sera pas exactement la même teinte, ce qui change pas grand chose, mais parce qu'on a 40% environ de plastique recyclé post-consommation. Des enceintes qui sont démontables, avec des vis, avec le logo Sonos sur les vis. Alors démontable, c'est pas fait pour être démonté par le grand public, même si vous pouvez le faire, mais l'intérêt c'est surtout en termes de réparation. Si jamais il y a un problème au niveau de l'enceinte, bah tout n'est pas collé comme ça pouvait être le cas avant. C'est beaucoup plus facile pour les centres de maintenance de les démonter et de juste changer la pièce sur laquelle il y a un souci. Donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Amazon Music Unlimited pour profiter de Dolby Atmos ou Apple Music d'ailleurs, enfin, je change l'intertitre. Voilà. La RA300 pourrait potentiellement être mise à jour pour être compatible avec d'autres formats d'audio spatial. Donc potentiellement, il pourrait y avoir du Sony 360 Reality Audio ou du DTS:X qui arriverait à terme. Mais en tout cas, c'est pas prévu au début. La Sonos One va être retirée du marché. En revanche, la Sonos 5 reste pour l'instant en gamme. Voilà pour les enceintes de chez Sonos. Effectivement, la concurrence, c'est vraiment le HomePod. Sonos va dans le bon sens sur le démontage, oui, complètement. C'est déjà bien que des mises à jour permettent des grosses évolutions sur nos produits, ça évite des rachats de produits. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord, Monigo, sachant en plus que, très honnêtement, je m'occupe de quotidien sur Frandroid. Hein. Le souci, c'est que ça reste des consommables. Les enceintes Sonos, on peut les démonter. Autant des écouteurs, alors là j'ai des Sennheiser, j'ai des Bose, j'ai des Jabra. Tous ces écouteurs-là sont des consommables. C'est-à-dire que le jour où la batterie est morte, ce qui arrive relativement rapidement sur des produits avec un aussi petit format, le jour où la batterie est morte, vous ne pouvez pas les démonter et en changer la batterie. C'est tout collé, c'est tout soudé, c'est jeté. Et un jour, c'est une aberration écologique, hein, les écouteurs sans fil. Mais au moins, ils sont mis à jour. C'est déjà ça. Mais dans 3 ans, ne vous attendez pas à utiliser des écouteurs sans fil plus de 4 ans. Vous ne pourrez pas. C'est vraiment le problème. La batterie des écouteurs sont irremplaçables. Autant celui du boîtier, ça va, mais les écouteurs, même durs. Ouais, encore, le boîtier, si je prends les Bose, je ne sais même pas si je peux à un endroit. J'ai pas d'endroit où je peux ouvrir le boîtier, en fait. Hein. Donc, même le boîtier, peut-être qu'un jour, ça sera possible. Mais là, c'est juste pas le cas. Pour ça, mon bon vieux casque qui a 15 ans me suffit bien encore. Bah, t'as tout à fait raison. Ça dure combien de temps, généralement, des écouteurs haut de gamme, en prenant soin, évidemment. C'est pas une question de prendre soin. Je dirais 4-5 ans, grand maximum. Là, j'ai un collègue qui avait un souci sur ses AirPods Pro, donc la première génération, qui en fait étaient plus détectés, etc. Et donc il a dû en changer parce que en fait trop de soucis, que ce soit le software ou de batterie. Et en l'occurrence, c'est souvent la batterie qui pose souci. C'est que on estime généralement que, si je dis pas de bêtises, au bout de 1000 cycles de recharge, un appareil perd environ 80% de sa batterie, de ses capacités de batterie, parce qu'une batterie, ça s'use. Donc, 1000 cycles de recharge, ça donne 3 ans. Si ça continue encore, au bout d'un moment, ça va réduire de plus en plus, quoi. Vive les écouteurs filaires. Ouais, mais après, en écouteurs filaires, tu perds le confort d'utilisation. Donc, c'est un compromis. C'est, voilà. Oui, pardon, il perd 20%, il tombe à 80%. Désolé. J'ai dit il perd 80% de batterie. Non, il perd 20% de batterie, il tombe à 80% de la capacité initiale. Tout à fait, l'ordi puce, pardon. J'ai pu démonter mes anciens WF 1000XM3 grâce à un tuto pour voir si c'était possible. Ok. D'ailleurs, l'autonomie des écouteurs, c'est important, même si on n'a pas l'utilité d'une grosse charge, car quand on perd la capacité de batterie dans le temps, mais on s'en aperçoit pas au quotidien. Tout à fait. Pour ça que des écouteurs qui ont une batterie une autonomie de 10 à 11 heures, je pense aux Audio-Technica, j'ai oublié leur nom, ceux-là. Ces écouteurs-là, les ATH-CKS50TW, alors qu'on a un nom moche, qui sont pas les écouteurs les plus confortables du marché, etc. Mais qui ont une autonomie avec réduction de bruit de 14h45, avec réduction de bruit. Et codec APTX adaptive. Avec cette autonomie-là, de base, même si vous perdez 80% de la capacité de la batterie au bout de 3 ans, enfin 20% de la capacité de la batterie au bout de 3 ans, il vous restera quand même, je suis nul en calcul mental, mais peut-être 11h, 12h d'autonomie. Donc bon. Merci pour le follow DWXU. Merci également pour le follow à Lancelot. On peut les tenir super longtemps. Exactement. Donc ça, je pense que c'est des écouteurs qui... Après, Audio-Technica, ils sont très bons là-dessus. Hein. C'est une marque qui est... C'est des écouteurs qui étaient vraiment pas mal pour un prix qui était relativement abordable. Et j'ai très, très hâte qu'on teste ceux qu'on avait là en Audio-Technica. Ah, les TWX9, qui sont en cours de test, pour info. Et qui, eux, sont des écouteurs Audio-Technica haut de gamme. Ce qui n'était pas le cas sur le modèle d'avant, hein, qui ont reçu un 9 sur 10 quand même. Donc sur du haut de gamme, regardez le nombre d'embouts qui sont proposés avec les écouteurs. On a à peu près toutes les technologies qu'on peut imaginer sur des écouteurs sans fil qui sont embarquées là-dedans. On a du... Ça a compatibilité Snapdragon Sound, en partenariat avec Qualcomm. Des codecs SBC et AAC. Enfin, on a vraiment plein de choses dedans. Donc, ces écouteurs qui, sur le papier, font très envie. et avec une autonomie qui est annoncée de 6 heures avec les écouteurs seuls et jusqu'à 18 heures avec le boîtier de recharge. Donc c'est pas, on n'a pas la même autonomie que sur les autres, mais en même temps c'est les écouteurs qui a priori sont plus pertinents que ça. Après, ils sont sortis il y a un moment, Mundingo, les Audio Technica, donc je suis pas sûr que tu, voilà, que tu aies des prix qui soient beaucoup plus intéressants à l'avenir. Tu préfères garder des écouteurs filaires plus de 10 ans ou changer tous les 4-5 ans à cause de la batterie? Quand tu perds un écouteur, entre-temps, il y en a un plus écolo. Oui, ah non, non, mais complètement. En soi, les écouteurs filaires, c'est pour que ça soit pour la qualité sonore, que ça soit pour l'écologie, le prix, c'est le meilleur argument. Ensuite, c'est le confort qui est apporté par la fil. Les écouteurs sans fil également, l'avantage, c'est que c'est des écouteurs qui sont actifs, donc ils vont te permettre de profiter de la réduction de bruit, ce qui n'est pas intégré, réduction de bruit active, ce qui n'est pas intégré sur des écouteurs filaires. Donc c'est un choix. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi, Amel, que en termes d'écologie et d'environnement, les écouteurs filaires sont le choix à faire. La techno que j'aimerais voir chez tout le monde, pouvoir utiliser le boîtier comme émetteur, branchant jack ou USB sur PC, un ampli, pour émettre en Bluetooth de qualité. Alors c'est ce que fait, on a testé les Boers & Wilkins, parce que BW le fait ça. On a testé les Boers & Wilkins PI7 S2 récemment. Les PI7 S2 qui font ça. C'était déjà le cas d'ailleurs sur les PI7 de l'an dernier, où en fait tu peux brancher le... Je l'avais montré d'ailleurs, je l'avais pris une photo pour montrer cette fonctionnalité-là. Tu peux brancher à une enceinte en jack, à une source filaire, et tu peux... et ça permet de faire ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, que LG propose également des écouteurs qui font ça. Après, en vrai, l'usage, il est pas incroyable. Parce que un PC, souvent, il est compatible Bluetooth. Donc, tu peux brancher en Bluetooth à ton PC. La plupart des appareils sur lesquels tu veux pouvoir écouter de la musique sont déjà compatibles Bluetooth. Donc, il n'y a pas un usage qui est incroyable de cette fonctionnalité-là. Ça peut être l'idée pertinente, par exemple, ça peut être dans un avion. Dans un avion, tu peux brancher pour regarder le film qui est projeté. Mais voilà. Mais c'est vraiment une idée qui est bonne, sur principe, mais qui, en termes d'application, n'a pas tant d'application que ça. Bonjour, rien à voir avec le sujet actuel, mais je cherche une tablette pas trop chère pour aller sur Twitch et YouTube SVP. Merci à tous. On va aller voir ce que propose meilleure tablette Android. Peut-être pas 2022, hein, voilà. N'hésite pas à jeter un œil là-dessus, The Abstract. A priori, une tablette pas chère, on recommanderait plutôt la Xiaomi Pad 5 à 399€. Tu veux un modèle encore moins cher, pour le coup, tu vas avoir... qu'est-ce qu'on peut recommander encore moins cher? La Tab S6 Lite, elle a combien? La Tab S6 Lite, tu peux la trouver pareil autour de 400€. La Honor Pad 8, voilà, 249€. Il y a un truc que je n'ai pratiquement jamais vu, sauf chez Asus ROG. Mais sur des tests que j'ai vus, c'était bof. C'est des écouteurs filaires USB-C avec réduction de bruit active. Mais bon, je me doute que la majorité du marché est déjà passée ou tout sans fil. Je suis d'accord avec toi. Que ça soit sur ça ou sur de la... Alors, il y en a eu un moment. Si je dis pas de bêtises, je crois que Google proposait des écouteurs USB-C. Google en propose encore. Voilà, Google en propose. Mais il n'y a pas de réduction de bruit, de mémoire. Caractéristiques, alors qu'ils pourraient le faire. Mais effectivement, ce serait bien que plusieurs marques s'y prennent. WXO, je repose ma question en espérant que tu la vois cette fois-ci. Désolé. Est-ce qu'en tant qu'employé chez Frandroid, tu peux garder les technos, les produits que je teste, j'imagine? Ça va dépendre. Ça dépend sur les smartphones, généralement, non. Parce que les smartphones tournent. En fait, la problématique, elle est simple. C'est que un produit qui est envoyé chez Frandroid, comme chez les numériques, comme chez Clubic, comme chez 01net, comme chez Journal du Geek, enfin chez tout le monde, un produit qu'on teste, généralement, on ne va pas forcément être les seuls à le tester. C'est-à-dire que le smartphone de... Je prends l'exemple du... Oui, c'est celui-là. Le Vivo. Ce Vivo-là, une fois que j'ai fini le test, je vais le renvoyer à la marque ou à l'agence qui travaille pour la marque, qui va elle-même le renvoyer probablement à un autre journaliste, un blogueur, un youtubeur ou que sais-je. Donc généralement, les smartphones sont repris, sauf cas exceptionnel où on va demander à pouvoir le tester sur le long terme, donc en faisant ce qu'on appelle des tests longue durée pour donner un ressenti global au bout de 6 mois ou un an d'utilisation, parce qu'on a vraiment apprécié le produit à la base et on aimerait pouvoir avoir un retour un peu plus exhaustif, ce que j'ai fait sur le Vivo X80 Pro. Mais voilà. Ou alors ou les garder sur des téléphones haut de gamme pour pouvoir les comparer, et parce qu'on va souvent en avoir besoin, typiquement un Samsung Galaxy S23, il faut qu'on l'ait sous la main, parce que dès qu'il y a une mise à jour, dès qu'il y a un truc, c'est des téléphones qui que de toute façon on va on va newser ou on va comparer avec d'autres, etc. Donc ça, c'est des usages spécifiques. La plupart du temps, les téléphones, non. Les casques, pareil, on les renvoie. Les écouteurs sans fil, généralement, les constructeurs les laissent. C'est pour ça que j'ai des Jabra encore, c'est pour ça que j'ai des Sennheiser, c'est pour ça que j'ai des Bose. Pour des raisons d'hygiène sur les écouteurs sans fil, parce que des écouteurs sans fil, ça va dans le conduit auditif. Et donc, ils vont pas les renvoyer ou les refiler à quelqu'un. Il y a quelques marques qui les récupèrent, je donnerai pas de nom. Mais généralement, non, les constructeurs sur les écouteurs sans fil les laissent. Donc moi, je fais profiter un peu les collègues qui ont des écouteurs en panne ou voilà. Mais sachant que ça reste des écouteurs qui appartiennent... pas à moi, certainement pas, qui appartiennent à la marque. Si la marque un jour me dit « Geoffroy, j'ai besoin de récupérer ces écouteurs-là chez Sennheiser », si l'agence, Gennady, coucou, si l'agence veut récupérer ces écouteurs-là de chez Sennheiser, bah, je les ai. Je peux les ramener, elles sont à disposition de la marque. Voilà. Ils font ça pour des soucis de budget comme bah, les écouteurs sans fil aussi. Le problème, c'est qu'ils ont, enfin, parfois sur des produits comme ça, ils ont pas envie de se faire chier à, pardon pour le terme, mais bah, de récupérer les produits, etc. Ça demande du temps et de l'argent de récupérer les produits, de faire le suivi de où est tel ou tel produit avec le numéro de série et tout ça. Enfin, c'est galère hein, pour eux. Donc parfois c'est plus simple juste de les filer, ça leur fait faire des économies aussi. Avec un S10e, j'ai encore le port jack et donc une paire d'écouteurs dans le sac. La qualité est meilleure, pas de compression. Mais le fait que j'ai pris l'habitude de la réduction de bruit des Sony M4, je ne sors quasiment plus les filaires, sauf dans un environnement silencieux. C'est dommage que ce soit difficile d'en trouver avec ANC actif, avec ANC quoi, puisque c'est Active Noise Cancellation. Mais le marché n'est plus friand du jack, ça se comprend. On est d'accord, Mundingo. J'imagine que certains constructeurs changent les embouts. Ouais, mais même sans les embouts, c'est-à-dire que... Sors les Bose, hein. Là, je retire les embouts, alors je sais pas. Parce qu'en plus, je vais vous le montrer en gros plan, donc ça va être un coup à voir tous les trucs. Mais voilà, vous voyez au niveau de la grille, je sais pas si je peux le faire mise au point plus proche que ça. Mais voilà, au niveau de la grille en soi, même sans les embouts, il peut y avoir des bactéries dedans. Pourtant, il n'y a pas de MST. Non, mais tu as des bactéries dans les oreilles. Tu peux attraper des otites ou des trucs comme ça. Hein. Maladie auriculairement transmissible. Écoutez, on a beaucoup divergé. On a fini sur les Sonos. Je vérifie s'il y a des actus plus récentes, parce que sinon, j'allais passer sur les news d'hier. Donc, tant qu'à faire, autant peut-être passer sur des actus un poil plus récentes. Évidemment, c'est que de la voiture électrique. Eh bien, écoutez, on va passer sur Xbox Game Pass et les actus d'hier. D'ailleurs, attention de ne pas nettoyer ces embouts de manière agressive. Oui, c'est normal que c'est sale. Oui, bah oui, ça va dans l'oreille. Hein. Donc et puis moi, je cours avec mes écouteurs, donc avec la transpiration, avec tout ça. Oui, je vous ai pas montré ça. Quand je dis je cours avec les écouteurs, je me la raconte 2 secondes. Hein. Salut Pépé, merci Pépé. C'était ce week-end. Les Sony WF-MX M4 ne se nettoient pas à l'eau, les mousses détestent l'eau. Oui, sur les embouts des WF-MX M4, évidemment, comme c'est des embouts en mousse, ne les nettoyez pas à l'eau. C'est pas une bonne idée. Les mousses détestent l'eau, d'où le fait que beaucoup ont les embouts qui se déchirent complètement. Pépé, t'arrives au moment où on a fini sur l'audio. On était en train de parler d'écouteurs sans fil, d'écouteurs filaires, de possibilités pour les constructeurs potentiellement de un jour proposer des écouteurs filaires USB-C, donc auto-alimentés, qui vont proposer de la réduction de bruit, ce qui est trop rare sur le marché. On a parlé des enceintes Sonos aussi, des nouvelles enceintes Sonos, et donc là on allait passer sur du gaming. Xbox Game Pass, Microsoft ajoute plein de gros titres pour répondre au PS Plus Extra. Effectivement, là pour le coup, c'est un mois de mars qui est plutôt pas mal sur le Xbox Game Pass, avec pas mal de nouveautés, donc Guilty Gear Strive qui débarque sur le service qui est disponible depuis hier sur le service, sur PC, console et cloud. Le remake de Dead Space a rejoint les étals en février. Microsoft a ajouté les épisodes suivants, donc Dead Space 2 et Dead Space 3, à son service cloud à compter du 9 mars. Valheim, également disponible à partir du 14 mars, Civilization 6 qui arrive le 16 mars et Ni no Kuni Revenant Kingdom qui arrivera le 21 mars. Donc Guilty Gear, Dead Space 2, Dead Space 3, Valheim, Civilization 6 et Ni no Kuni 2. Et évidemment, il y a des jeux qui vont quitter le Game Pass. F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Road Zero, Marvel's Guardian of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls et Zero Escape the Nonary Games. Tout ça va quitter le Xbox Game Pass. Voilà. Ça n'a pas été trop dur ce semi. Si, mais c'est tout l'intérêt. Hein. Résultat de beaucoup d'entraînement, ouais. Bah, je prépare du coup un article longue durée sur cette montre. Attendez, je peux pas vous les montrer normalement, mais les belles photos en plus qui ont été prises sur le parcours. Ils ont une agence en fait de photographie, de photographes qui s'occupent de ça, sur les événements sportifs, et pour le coup qui prend des photos qui sont plutôt cool. Oui, non, c'était dur. Mais du coup, ça va me permettre aussi de enfin boucler le test longue durée de cette montre, qui est la mienne, hein, que j'ai achetée. Mais voilà, c'était fatigant. Mais du coup, je me suis inscrit au 10 km Adidas qu'on lui en juin. Préparer mon entraînement avec un programme spécifique Garmin. Exactement, je suis passé par Garmin Coach. Donc j'en parlerai pour le coup dans le test longue durée de la Forerunner 255. Puisque Garmin a un système de programme de coach en fonction de l'objectif que vous vous fixez, en fonction de vos données de santé, de là où vous en êtes, etc. Théoriquement, on peut s'adapter. Alors, je pensais que c'était plus adaptatif que ça ne l'est vraiment. Mais ça marche bien. C'est un S23. Quoi donc ? Qui prenait les photos ? Non, c'était des vrais appareils photo. C'est pas un S23. Cool, ça m'intéresse justement les programmes Garmin. Et ben voilà. Alors, je parlais du coup, j'ai testé que l'un des trois coachs. Donc, j'ai testé coach Jeff, qui est le coach un peu débutant. Et surtout, c'est le seul qui permettait de faire seulement 3 entraînements par semaine. Les autres, c'est forcément 4 ou 5. Mais je pense que je vais tester Greg, donc un autre coach pour l'entraînement au 10 km. Donc, ou ça, ou alors je passe par un programme d'entraînement plus classique. Je sais pas encore. J'imagine si un jour tu prends un assistant pour les montres ou pour l'audio. Jeune homme, jeune femme, aimes-tu courir ? Exactement. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, sans parler d'assistant, hein, un pigiste. Un pigiste de montres connectées. Bah, et c'est pour ça, là, je vous montrais les photos. À droite, c'est Maxime. Hein. Ça, c'est Maxime qui fait les tests de montres connectées avec moi, qui est mon pigiste. Et pour le coup, il a couru avec moi. Et il a un bien meilleur niveau que moi, d'ailleurs, en course à pied. Mais pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui ne... Je dis pas un bon niveau de course à pied, peu importe, hein, ça, on s'en fout. Mais il faut au moins courir un petit peu et faire du sport pour détecter pour faire de l'entraînement fractionné. C'est-à-dire que pour avoir des entraînements où la fréquence cardiaque, elle va augmenter, elle va descendre, elle va augmenter, elle va descendre. Et ça, bah, il faut faire du sport pour le voir. Et justement, pour savoir si les montres gèrent bien, détectent bien ces différences de fréquence cardiaque. Donc il faut que la personne fasse, pas forcément courir un semi-marathon, évidemment, mais au moins sage, enfin, court un peu. Titouan, par exemple, il court pas de semi-marathon, mais il court un petit peu. Donc Titouan, il fait des tests de montres connectées aussi, de temps en temps. C'est vrai que pour savoir la stabilité de la détection cardiaque, c'est important. Exactement. Comme les personnels de Decathlon, tu ne peux y bosser que si tu pratiques un sport et si tu es à un niveau pas débutant. Ah, je savais pas ça. Mais ce qui est plutôt logique, parce qu'il faut connaître un petit peu le sport. Utilisation en temps réel. De quoi donc ? Ah oui, sur la fréquence cardiaque ? J'imagine. Et puis même sur le GPS aussi, il faut que, bah, il faut bouger pour voir si, enfin, si on prend l'exemple du test de la Forerunner. La Forerunner pour la tester, donc la montre que finalement j'ai achetée. On voit, c'est pas le même modèle, hein, parce que moi j'ai les liserés rouges, j'ai pas les liserés jaunes, puisque j'ai pas acheté le modèle avec musique. La Forerunner, voilà. Au total, j'ai couru 30 km. À tester pour justement voir l'écart qui était proposé entre cette montre là et le smartphone, et en fait l'écart est minime et même la montre est plus précise que le smartphone sur le suivi du GPS. Ah oui, non, j'ai fait plus, j'ai dû faire 60 km même avec. Je l'ai fait aussi en mode GPS, tous les systèmes plus multiband. Donc oui, bah, j'ai fait beaucoup plus que ça. Et puis sur la fréquence cardiaque, voilà, il faut qu'on fasse des entraînements un peu comme ça pour voir la variabilité. Donc, et pour comparer du coup les mesures avec en bleu une ceinture de fréquence cardiaque et en rouge la montre, et en fait on voit qu'on a des données qui sont quand même très 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 très, très proches, et c'est pour ça que j'ai pris celle-là, hein. C'est parce que justement les données étaient très fiables. Je crois que vu les sports que je pratique, je saurais où me reconvertir si un jour je change de métier. Ah, Wendigo, il va bosser chez Decathlon. Je fais de l'escalade et comme j'ai un immense vertige, dès que je regarde en bas, mon cœur monte à 180, 190, je suis à 53. 53 au repos, c'est pas mal, hein. Je peux dire que pour un test de cardio sur les montres, je suis votre homme. Bah, de toute façon, théoriquement, en escalade, j'imagine que déjà à la base, quand t'es tendu comme ça sur le mur, sans avoir à regarder en bas, tu montes facile à 160, 170, 180. Je m'en rends pas compte à quel point ça fait bosser le cardio, mais le fait d'être tout tendu, tout crispé comme ça sur un mur, ça doit déjà faire beaucoup travailler le cœur. Bras levé, déjà ça. Ouais, déjà bras levé, en vrai, juste le fait d'être comme ça. J'attends un peu que la montre s'adapte. Là, je suis à 73, 74, 75, 73, ok. J'ai juste bras levé, déjà ça fait travailler un peu le cardio. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, peu importe quelqu'un qui écrirait des tests de montres connectées chez nous, peu importe le niveau qu'il a en course à pied, puisque de toute façon, ça, une courbe comme ça, tu l'auras d'autant plus facilement si jamais tu as un niveau qui est de course à pied qui est faible. Parce que, en gros, plus tu cours, moins bah plus tu cours, plus il faudra courir vite pour monter dans les pics, en gros. Plus ton cœur est en bonne forme, moins il va monter haut en fréquence cardiaque. Donc en fait, quelqu'un qui a un niveau qui est relativement faible ou moyen en course à pied, il va monter d'autant plus vite, donc c'est d'autant plus intéressant pour un test, logiquement. En fait, sur mes montées, je suis à 120 en général, puis dès que je regarde en bas, mon cœur panique pour dire j'ai commencé en septembre et je ne montais pas 3 marches sur un escalier. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bien. Bravo, Mwendigo, félicitations. Merci, Yosne, pour le follow. Ça fait plaisir. Mais écoutez, on arrive à la fin. On n'aura pas tout fait, mais on aura fait l'essentiel. Je vérifie qu'il n'y a pas de grosses actus incroyables qui soient tombées en plein pendant le live. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc Xbox Game Pass, YouTube, juste pour info, va améliorer l'expérience en supprimant certaines pubs gênantes. Voilà, je vais vous les envoyer dans le chat, les dernières actus. Ce sera plus simple comme ça. Si jamais vous voulez jeter un œil de votre côté, vous pourrez le faire. Et vélo électrique, j'ai mis ça de côté avec un petit lecteur d'empreintes digitales. Tu m'as chauffé à prendre la 255S. Allez, Vico. En vrai, il y a la nouvelle 265S qui est sortie, qu'on va tester. Enfin, j'espère qu'on va tester prochainement, mais on les a déjà demandé à Garmin. Je voulais à la base même essayer de trouver d'avoir la 265 pendant le semi, ce qui n'a pas été possible, histoire d'avoir les deux montres et de pouvoir tester aussi la 265 pendant le semi, qui, elle, propose un écran OLED. Je l'ai vu. Du coup, par contre, la 265, puisqu'elle était exposée sur le stand Garmin au village du semi-marathon de Paris, et la 265, en gros, elle propose, c'est la même, quasiment. Elle est un poil plus jolie, je trouve. Et elle intègre un écran OLED, ce qui n'est pas le cas sur celle-là, comme vous le savez. Si jamais vous avez l'habitude de passer sur ce stream, vous voyez qu'on n'a pas un écran, on n'a même pas de rétroéclairage sur la montre. En fait, on a une montre avec une technologie d'affichage qu'on appelle le MIP transflectif, qui est du LCD, un peu comme on avait déjà à l'époque sur les Game Boy. Donc qui consomme très peu d'énergie, mais qui n'est pas très très beau. Là, pour le coup, sur la Forerunner 265, il y a des animations. Enfin, j'ai hâte de la tester. Et il y a quelques fonctionnalités en plus qu'on ne trouvait pas sur ce modèle-là, comme le mode Stamina, qui n'est pas proposé sur la Forerunner 255, mais qui est sur la 265. Et la 265 est nécessairement musique, donc permet de stocker de la musique, ce qui n'est pas le cas de celle-là où il faut acheter un modèle dédié. Voilà, bref. En effet, plus tu cours, plus ton cœur fait difficilement des pics, d'où le fait qu'il ne faudrait pas que tu prennes un trop haut niveau. Ou alors qu'il faudrait faire des iron pour des tests de cardio. Non, mais au pire, je fais des sprints, hein. Ça c'est pas un souci. Écran Game Boy, on dit le Garmin ou la Garmin. Wear OS, donc non, pas Wear OS. Ça reste le système de Garmin dessus. Donc Garmin fait déjà des montres à écran OLED, hein, mais ça reste le système Garmin OS classique. Donc qui est très optimisé, très orienté vers le sport, beaucoup plus que d'autres montres. Et qui permet quand même une bien meilleure autonomie. Là, c'est 4 ou 5 jours d'autonomie, je crois, sur celle-là. Ce que je dise pas de bêtises, autonomie de la batterie en montre connectée seule jusqu'à 13 jours, sans écran Horizon, hein, j'imagine. Et GPS seul jusqu'à 20 heures, là où pour le coup, c'est 30 heures sur celle-là. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain matin, je sais pas qui on retrouve sur... je vais essayer de trouver ça. Qu'est-ce qu'on retrouve demain matin sur la chaîne Twitch, compte rendu de réunion... Je vous dis ça tout de suite. Demain matin, je crois que c'est Titouan. Titouan, normalement, en stream demain matin. Et demain après-midi, vous retrouverez bien évidemment Guillaume pour le live bon plan classique du jeudi après-midi. Je vais regarder désormais s'il y a quelqu'un qui est en live vers qui on peut envoyer en raid. Twitch.tv. Et on va vous envoyer. Allez, ça charge. Gotose, on le fait régulièrement. Est-ce qu'on refait Gotose ? Est-ce qu'on refait Gotose ? Eh bien, on va faire Gotose. Allez, je vais vous envoyer du coup en raid vers Gotose. Et moi, je vous souhaite une bien belle journée. N'hésitez pas. N'hésitez pas à passer le bonjour de ma part à Gotose. Et je vous souhaite une bien belle journée. À la semaine prochaine. Des bisous et ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.